VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Conakry, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, 4 personnes tuées aujourd'hui dans 2 attentats suicides à la périphérie de Maïdougouri, chef-lieu de l'état de Borno, et berceau du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays. C'est ce que rapportent ce lundi des membres des milices civiles. Le premier attentat a eu lieu dans le village de Mamaniti, à une quinzaine de kilomètres de la grande métropole du nord-est. La seconde attaque a eu lieu à Mainari, à 10 kilomètres à l'ouest de Maïdougouri. Lutte contre le terrorisme au Niger, le combat contre Boko Haram est pratiquement gagné, affirme le ministre nigérien de l'Intérieur dans une interview à VOA Afrique à Niamey. Par contre, Mohamed Bazoum a beaucoup d'inquiétudes concernant le Mali. Au micro de notre envoyé spécial Nicolas Pinault, le ministre Bazoum revient ici sur la situation dangereuse existant le long de la frontière entre le Mali et le Niger.
Nous avons le Mali qui est une grosse menace susceptible de remettre tout en cause parce que la différence entre Boko Haram et le Mali, c'est que Niamey, notre capitale, est à 200 km de la frontière malienne. Là, le front est beaucoup plus vif, les menaces sont plus prégnantes, et les risques sont plus grands. La situation ne s'améliore pas, au contraire. C'est pas seulement notre frontière, malheureusement, c'est que c'est le centre du Mali, même la région de Mopti, où la situation s'est le plus dégradée. C'est une zone où vous n'avez pas l'aménagement, mais de façon générale, je pense que l'aménagement n'a pas été un modèle d'efficacité. C'est une opération de maintien de la paix. Or, nous ne sommes plus au Mali en situation de paix, malgré l'accord d'Alger. Et la zone entre Menaka et notre frontière à nous est truffée de terroristes qui ont quelques sanctuaires de ci, de là.
Le ministre nigérien de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Au Tchad, toujours pas de nouvelles des 3 activistes des droits de l'homme arrêtés par l'ANS, l'Agence nationale de sécurité. Nadjo Kaina totalise 19 jours de détention, Dinga Manayel Nelly Versinis 14 jours et Bertrand Solo Nganjei, lui, a passé sa 11e nuit au secret ce lundi 24 avril sans être présenté à la police judiciaire ni à un juge. Les familles des prisonniers se disent très inquiètes concernant leurs conditions de détention. Dominique Yem Taba, oncle de Bertrand Solo Nganjei, dénonce une situation intenable. On l'écoute.
Bertrand a été enlevé, conduit à un poste de police. Il est quand même aberrant pour nous qu'un citoyen puisse être dans les locaux de la police et qu'il disparaisse. Alors, ce qui nous conduit maintenant à exiger sa libération sans condition. Si jamais il arrive quelque chose à Bertrand, nous tenons pour responsables les autorités puisqu'il est parti des locaux de la police. Et Bertrand a une santé fragile et depuis qu'il a disparu, nous n'avons ni accès à lui, il n'a jamais eu accès à un avocat pour pouvoir aussi plaider son sort par rapport à sa situation sanitaire.
Dominique Yem Taba, oncle du militant des droits de l'homme Bertrand Solo Nganjei, en détention au secret depuis 11 jours au Tchad. En RDC, incertitude à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, malgré la restitution du corps du chef Kamuina Nsapu par le gouvernement et la désignation de son successeur à la tête de Badjila Kasanga. Ces deux derniers développements ne semble pas devoir briser le cycle de la violence entre miliciens fidèles aux leaders défunts et les militaires des FARDC, les forces armées congolaises. La société civile et la population s'inquiètent de cette situation, nous dit notre correspondant Narval Mabila.
Kananga, Kasaï central, c'est l'horreur absolue depuis plusieurs mois. Tout n'est pas clair jusqu'à ce jour malgré la restitution par le gouvernement central du corps du grand chef Kamuina Nsapu à sa famille ainsi que l'entronisation de son remplaçant. Là, nous sommes dans la commune de Kananga où la peur et la violence est devenue un mode de vie. C'est de là que nous avons joint Madame Nathalie Kambala de la société civile qui tente de nous expliquer les contours de la situation incertaine.
On a remis le corps, il paraît qu'on a déjà enterré. On a même dit qu'on va annoncer le jour où les deux seront officiels. C'est vrai, il y avait encore une peur dans la population pour dire que voilà, l'autre qui est en train de venir, est-ce qu'il sera vraiment accepté par la population? Mais c'est passé comme ça. On a senti que la population avait besoin de la paix, que ce soit des mises en scène. Non, nous, la population n'a pas de ça. Nous, on fait confiance à la famille régnante, on fait confiance à l'État qui voulait la paix, surtout que cette paix ici, nous la voulons. temps aussi pour qu'on vive normalement comme les autres amis des autres provinces. On n'a pas besoin d'entendre de coups de balle, évidemment, ça continue malgré que ces événements s'est passé. Mais hier, avant-hier, il y a toujours des balles qui ont crépité, ça et là. Il y a des petites incompréhensions depuis la naissance de cette incursion. C'est la famille régnante de Kamouina qui avait commencé. Maintenant, c'est tout le territoire du centre kassaïen. Et en dehors de ça, tous les grands kassaïens sont touchés. Mais Atikapala, qu'est-ce qu'il revendique? Est-ce qu'il continue à revendiquer le corps? On ne sait pas. Il y a déjà un autre chef coutumier.
L'incertitude et la méfiance est totale des visio au sein de la population de Kananga qui est très fatiguée des atrocités et donne l'espoir à une paix à venir, comme s'exprime Selbert Kiungu, la société civile et citoyen journaliste.
Toutes les voies qui peuvent amener à la paix sont les bienvenues et la remise du corps, l'élimination du nouveau chef, dans une certaine mesure la population salue ces initiatives mais souhaite que ce ne soit pas du mascarade. Le montage est de simple mise en scène. Donc on est lassé, fatigué et essoufflé par cette guerre dont on ne connaît pas très bien les tenants et les aboutissants.
À l'Institut de recherche en droit de l'homme, IRDH, basé à Lubumbashi, nous avons joint Maître Tshiswaka qui pense que la solution ne passera que par l'organisation d'une conférence sur les Kassai et l'implication des causes tribunaux.
D'abord, il faudrait qu'ils puissent essayer de faire une approche réparatrice en faveur des victimes et des parents des victimes. Non seulement attendre la procédure judiciaire, il faudrait qu'on puisse avoir une conférence autour de la question Kamouna-Nsapu pour qu'on résolve les problèmes avec la population locale et les notables politiques. À défaut, nous pouvons avoir d'autres réactions dans d'autres provinces.
Entre-temps, à Kananga et ses environs, c'est l'incertitude qui continue. La peur et la désolation pourchassent les paisibles citoyens où chaque jour qui passe, c'est une éternité de violence. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Après Djibouti dimanche, le secrétaire américain à la défense Jim Mattis est maintenant en Afghanistan dans le cadre de la tournée qu'il a déjà conduite chez les alliés des États-Unis dans le Golfe Persique et en Israël. Le numéro 1 du Pentagone est arrivé ce lundi à Kaboul, 3 jours après l'attaque meurtrière des talibans contre l'une des plus grandes bases militaires afghanes à Mazar-i-Sharif dans le nord du pays, qui a fait plus de 150 morts, pour la plupart des jeunes recrues. Un revers qui a entraîné la démission aujourd'hui du ministre afghan de la Défense Abdullah Habibi et du chef d'état-major de l'armée afghane, le général Kadam Shah Shaim. Jim Mattis avait fait auparavant escale à Djibouti parce que ce petit pays de la Corne de l'Afrique abrite la seule base militaire américaine sur le continent africain. Jean-Roger Bion.
Le général Mattis a parlé de Djibouti comme d'un carrefour géographique important. Le port de Djibouti dans le détroit de Bab el-Mandeb est utilisé par les marines américaines et françaises et environ 10 autres nations selon un responsable américain. Le secrétaire à la défense s'est entretenu avec son homologue djiboutien et le président Ismaël Omar Guelleh. La base est essentielle pour les exercices et les opérations des États-Unis sur le continent et les forces spéciales américaines l'utilisent pour mener des opérations antiterroristes contre Al-Shabaab en Somalie voisine.
En France, reprise de la campagne électorale au lendemain du premier tour des présidentielles. Le centriste Emmanuel Macron, qui a obtenu près de 24% des voix, et la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen, 21,5%, s'affronteront le 7 mai prochain au second tour. Madame Le Pen a fait campagne aujourd'hui dans le nord du pays, région déshéritée, où le chômage est le double de la moyenne nationale. Emmanuel Macron et ses partisans, eux, sont encouragés par les sondages qui le donnent grand favori au second tour. Gabi Dorsil.
Oui, les sondages donnent Emmanuel Macron largement gagnant au second tour de la présidentielle. Pour l'Institut Ipsos, le candidat du mouvement En Marche recueillerait 62%, alors que l'Institut Harris Interactive prédit un écart encore plus important avec 64% des voix pour Emmanuel Macron. Le succès aux urnes d'Emmanuel Macron a été salué à travers l'Europe, tandis que la présence du Front National au second tour est qualifiée de menace. L'investiture du nouveau président devrait avoir lieu au plus tard le 14 mai, date d'expiration du mandat de François Hollande.
Et pour terminer, la lutte contre le paludisme en Afrique, le vaccin antipaludique le plus avancé mais à l'efficacité limitée va être testé à grande échelle au Kenya, au Ghana et au Malawi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé qui ambitionne de vacciner au moins 360 000 enfants au total entre 2018 et 2020 dans les pays en question. Selon les statistiques de l'OMS, l'Afrique est de très loin le continent le plus touché par le paludisme.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.